Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Odette Spingarn pour son livre « J'ai sauté du train » qui vient de paraître dans la collection « Témoignages de la Shoah » de la Fondation pour la mémoire de la Shoah en partenariat avec les éditions Le Manuscrit. Odette Spingarn, alors que vous n'aviez que 19 ans, vous avez été arrêtée avec vos parents le 31 mars 1944, alors que vous étiez réfugiée en zone libre près de Brive. Vous avez ensuite été déportée à Auschwitz-Birkenau le 13 avril. Vous racontez dans votre livre des fragments de votre histoire, votre arrivée à Drancy, votre déportation à Auschwitz, puis votre transfert dans une usine dans l'est de l'Allemagne, et puis aussi bien sûr votre évasion. Vous écrivez dans ce livre que vous avez eu beaucoup de mal à parler de cette histoire avec votre famille et que ce n'est que très tardivement, en 1993, que vous avez décidé de témoigner, notamment dans des écoles ou dans des lycées. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a décidé à transmettre cette histoire, Odette Spingarn ?
En fait, j'ai été contactée par un programme de l'université de Yale sur la Shoah. À partir de ce moment-là, curieusement, j'ai été sollicitée par différentes écoles, lycées, groupes d'adultes pour témoigner. Jusque-là, personne ne me l'avait demandé. Et c'est assez curieux de voir qu'il a fallu une certaine distance par rapport aux événements pour que la curiosité peut-être apparaisse chez les uns ou les autres et qu'elle s'exprime par des questions. Alors que personne ne m'avait demandé quoi que ce soit pendant près de 50 ans.
C'est-à-dire même dans votre famille ?
Dans ma famille.
Ils n'osaient pas vous demander.
Ce qui s'est passé, c'est que, bon, à mon retour de déportation, j'ai retrouvé ma sœur qui, elle, avait été préservée parce qu'elle avait réussi à passer avec ses petits-enfants en bas âge en Suisse. Elle est donc revenue à Paris, je l'ai retrouvée et j'ai voulu lui raconter tout ce qui concernait ma mère. Alors je lui ai tout raconté pendant une seule nuit et on n'en a plus jamais reparlé. Mais les autres membres de ma famille n'étaient intéressés que par mon évasion. Ça, c'est quelque chose qui les avait...
C'est la plus belle partie.
qui les avait certainement intrigués. Et ça m'a donc donné l'idée de le rédiger. Alors ça, je l'ai rédigé. Et ensuite, plus rien. Est-ce que c'était trop douloureux pour eux d'en savoir davantage? Ou au contraire, est-ce qu'ils voulaient me ménager? Je ne sais pas. J'étais assez obsédée par tous mes souvenirs et n'ayant pas d'interlocuteur, eh bien j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit.
Vous vous souvenez à peu près de quand vous les avez écrits? Parce que donc c'est, comme je le disais au début, ce sont des fragments, ce sont des passages de cette histoire pendant la guerre. Vous vous souvenez, c'était dans les années 50, au contraire dans les années 70, que vous avez rédigé ces morceaux?
C'était votre dans les vie. Années 45-50.
C'était très tôt.
Mon évasion, c'était tout de suite fin 45, et que je l'ai rédigé. Et les autres fragments, je les ai rédigés entre 45 et 55, disons.
Alors, si vous voulez bien, Odette Spingarn, on va reprendre le cours de votre livre, ces fragments dont vous parliez. J'aimerais qu'on parle tout d'abord du premier jour, ce que vous appelez le premier jour, c'est-à-dire le 1er avril 1944, c'est le lendemain de votre arrestation. Pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé avant ce premier jour? C'est-à-dire, comment se sont passées pour vous et votre famille les années de la guerre? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ce 1er avril 1944?
Vous savez, tout a commencé en mai 40. Ça a été le début de la débâcle. Les Allemands ont contourné la ligne Maginot. Et à ce moment-là, le souci de ma famille, c'était ma sœur qui était enceinte et qui avait deux bébés déjà.
Vous aviez 15 ans, vous?
Moi, j'avais 15 ans, exactement. Et donc, mon beau-frère était mobilisé. Et voyant que Paris semblait être menacé, mon père et mon beau-frère se sont réunis pour discuter comment allait-on mettre ma sœur à l'abri. Et c'est à ce moment-là que mon père a trouvé une annonce dans un journal. Il y avait la possibilité de louer un manoir en Corrèze et il a pensé que ce serait une bonne idée. Là-dessus, nous sommes partis tout de suite, ma sœur, ma mère et moi, les bébés, et nous sommes arrivés en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, en attendant de pouvoir entrer dans ce manoir qui était loué à partir du 1er juin. Donc déjà au mois de mai, nous avons quitté Paris avant l'exode réel, avec tout ce que ça pouvait comporter de risques. Ensuite, nous avons habité ce manoir où d'autres personnes de la famille sont venues nous rejoindre. Nous étions une vingtaine de réfugiés jusqu'à la rentrée. À la rentrée, tout le monde s'est séparé. Les uns sont allés à Toulouse, les autres à Lyon. Nous sommes allés à Brive. Ma sœur avec nous parce qu'elle a été accouchée à Brive et d'une petite fille. Et après, elle a rejoint son mari qui avait sa situation à Lyon.
On va arriver sur cette date du 1er avril 1944, le lendemain de votre arrestation. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de cette arrestation? D'après ce que j'ai compris, c'était aussi une action de représailles contre les résistants de la région, c'est ça?
Ah oui, c'était une opération contre le maquis. Et il y avait une grosse opération contre les partisans, contre les résistants, et il y avait eu des actions de sabotage, et la division Brenner est venue pour ratisser l'endroit. Et ça a été
Qui ils ont arrêté, justement?
Alors, ce sont des Allemands en uniforme, enfin, ce sont des soldats qui sont venus nous arrêter. Et à ce moment-là, nous savions depuis 7 heures du matin que le village était complètement entouré par l'armée allemande. On regardait par la fenêtre, il y avait un petit jardin devant nous et puis qui se terminait par une rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait tous les 10 mètres un soldat. Donc on savait qu'on était vraiment complètement piégés. Alors on a essayé de mener une vie normale toute la matinée. Moi j'ai fait un peu de piano, ensuite on a préparé le déjeuner. Et puis donc on avait mis une casserole de pommes de terre à cuire. Et là-dessus, tout d'un coup, pam pam pam, on entend frapper à la porte. Il a fallu ouvrir et c'était les soldats qui venaient nous arrêter. Donc ils ont versé de l'eau sur le feu où les pommes de terre cuisaient pour tout éteindre. Et puis, j'ai voulu boire un verre d'eau et ils ne m'ont pas permis. Et mon père s'est interposé, mais pourquoi vous ne la laissez pas boire? Ils n'ont pas répondu, pas question. Et à ce moment-là, ils nous ont dit d'aller faire chacun notre valise. Alors chacun d'entre nous, mon père, ma mère et moi, nous sommes allés faire notre valise et nous étions suivis chacun par un soldat qui ne nous a pas lâchés. Et je savais très bien, parce qu'on y avait beaucoup pensé, on peut être arrêté, etc. Je savais très bien ce que je voulais mettre dans ma valise. Donc j'ai été faire ma valise et je me souviens même avec beaucoup de fierté que j'ai pris un flacon pour mettre de l'eau de Cologne. J'avais une grande bouteille avec de l'eau de Cologne. J'ai versé de la grande bouteille dans le petit flacon de l'eau de Cologne et je n'ai pas mis une goutte à côté. Ma main ne tremblait pas. Tout ça devant le soldat, je tenais beaucoup. Et enfin, c'est l'anecdote. Mais bref, on est tous ressortis avec notre valise chacun et embarqués dans un camion déjà jusqu'à la mairie.
Les choses ont été très vite ensuite. Dès le 6 avril 1944, vous êtes transféré avec votre mère à Drancy. Votre père, vous ne savez pas à ce moment-là ce qu'il est devenu.
Non, on ne savait pas, mais on s'en doutait. Étant donné qu'on ne l'a pas retrouvé à Drancy, et étant donné qu'on avait entendu à Périgueux énormément de récits de la manière très brutale et très sanglante dont se passait le ratissage de la région, on n'avait aucune illusion. On était certain que les hommes, sous prétexte d'un interrogatoire, avaient en réalité été fusillés. Ce qui fait que quand j'en ai eu la confirmation à mon retour de déportation, je n'étais pas surprise du tout, parce que j'en avais jamais douté.
Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là, sur ce chemin vers Drancy? Est-ce que vous vous doutez de ce qui va se passer, ou est-ce que vous avez encore l'espoir que vous allez pouvoir échapper à la déportation? Quel degré de connaissance vous avez de la situation à ce moment-là?
Échapper à la déportation, il n'en était pas question. On savait très bien qu'on allait être déporté, bien sûr. Mais on ne savait pas ce que ça représentait, la déportation. On savait qu'il y avait 3 jours de voyage, mais pour aller où? Étant donné qu'il y avait des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades, etc., c'était évident pour nous que nous allions atterrir dans un village et que dans ce village, eh bien, les jeunes travailleraient et que ceux qui ne pouvaient pas travailler resteraient à la maison. Et on appelait ce village Pichipoy. Ça, c'était le village imaginaire dont on parlait à Drancy.
Vous êtes donc resté du 6 avril au 13 avril.
Oui, ça a été très rapide, une semaine.
C'est là que vous avez appris justement des choses sur Pichipoy. Vous aviez déjà
rien. Rien. Absolument rien.
Absolument rien.
Absolument rien, non. Non.
Mais vous avez retrouvé des gens que vous connaissiez?
On a retrouvé des gens. J'en parle justement dans mon livre en disant que ces personnes qui étaient des parents de mon beau-frère et des personnes que nous connaissions bien, étaient là depuis 2 mois déjà et devaient être déportés en même temps que nous. Parce qu'une fois qu'on était appelés à être déportés, on était complètement séparés de tout le monde. On était dans un département de Drancy tout à fait isolé et voués donc à la déportation. Alors eux, ils avaient réussi à se faire des amis, ils avaient réussi ce voyage qui était tout de même assez angoissant, à l'idée de passer 3 jours en wagon à bestiaux, ils avaient réuni quelques amis et nous aurions voulu être avec eux. On n'y est pas parvenu. Et c'est ce qui nous a sauvé la vie, puisque à l'arrivée, ils ont tous été gazés et nous aurions été gazés avec eux si on avait été dans le même wagon. Donc voilà comment ça s'est passé.
Vous écrivez dans votre livre, arriver à Birkenau, c'est comme être transporté sur une autre planète.
Ça, c'est absolument vrai. Rien ne correspondait à ce qu'on pouvait imaginer dans une vie normale. Tout était le contraire de la vie normale, tout était incompréhensible d'ailleurs, totalement incompréhensible. Et c'était une telle surprise d'aboutir dans un bagne pareil que rien ne... On n'y comprenait rien. On était complètement ahuris, dépassés par tout ce qu'on voyait et tout ce qu'on nous obligeait aussi à subir. C'était extrêmement déconcertant, déstabilisant.
Votre récit montre une force de vie absolument incroyable, en tout cas une détermination. Comment, avec le recul, qu'est-ce qui, avec le recul, vous a donné la force de survivre dans ce camp?
Vous savez, j'étais très axée sur tout ce qui concernait ma mère et malheureusement ce qui lui est arrivé. Et je tenais à ce que ma sœur le sache, à ce que toute la famille le sache. Et ça m'a beaucoup motivée pour... je voulais absolument sortir de là pour pouvoir aller raconter. Je voulais raconter ce qui était arrivé à ma mère. Et ça, je savais que ma sœur était à l'abri, donc que je la retrouverais. Alors tout ça, ça m'a énormément motivée. Et je voulais à tout prix en sortir pour cette raison-là.
Que je ne dise pas de bêtises, dès octobre 1944, c'est-à-dire que vous arrivez en avril et en octobre 1944, vous quittez Auschwitz avec 500 autres détenus pour aller travailler dans l'usine Otto Union qui fabrique des pièces détachées pour les moteurs d'avion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi sauvé la vie d'une certaine manière ? C'est-à-dire, est-ce que les conditions de vie étaient meilleures là-bas ?
Déjà, j'avais été au Canada, qui était une période où les conditions de vie étaient supportables.
Le Canada, il faut préciser.
Alors, le Canada, c'était le camp dans lequel, par le plus grand des hasards, j'ai été transférée avec quelques centaines d'autres détenus. Mmh. Et c'était l'endroit où l'on triait les vêtements et toutes les affaires des personnes qui arrivaient à Auschwitz. Pour y être assassinés ou pas, mais enfin, de toute façon, toutes leurs affaires étaient triées et il fallait donc faire ce travail. Et c'était un travail qui se faisait à l'intérieur de baraques, avec des possibilités d'appels beaucoup moins longs, des possibilités de se tenir propre, de prendre des douches. Nous étions en quelque sorte utiles, donc on était plus dans de meilleures conditions de vie. C'était moralement insoutenable parce que ça jouxtait les chambres à gaz et les crématoires, mais sur le plan de la vie... Même de la nourriture, on pouvait de temps en temps améliorer un tout petit peu notre nourriture. Donc déjà, c'est peut-être ça qui m'a sauvée, parce qu'à Birkenau, c'était rare de survivre plus que 3 mois, 4 mois maximum. Donc j'ai eu cette opportunité. Et puis ensuite, dans cette usine dont vous parlez, il y avait aussi des conditions de vie meilleures d'un certain sens, parce que nous étions à l'intérieur, nous étions à l'abri des intempéries, mais nous étions tellement privés de nourriture que c'était très difficile de tenir le coup, et on se demandait combien de temps on pourrait survivre avec si peu de nourriture.
Toujours en suivant les fragments de votre livre d'Atchwingarn, on arrive au 14 avril 1945. Nous sommes dans les dernières semaines de la guerre. Vous êtes à nouveau embarqué avec 800 autres femmes dans des wagons à bestiaux pour une destination inconnue. Et vous décidez de vous évader. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Nous savions depuis une semaine que les Alliés approchaient, qu'ils étaient à Chemnitz, donc à 17 km. Et on espérait qu'ils viendraient nous délivrer. Ça n'a pas été le cas, mais on se doutait que si on nous évacuait à ce moment-là, c'était pour nous emmener dans un camp d'extermination. C'était à peu près évident pour nous. Alors, mes amis, qui étaient un petit groupe de francophones, et moi, nous avons décidé à tout prix de nous évader. Alors, on a eu la chance d'être dans le dernier wagon du train, que la dernière fenêtre de ce wagon, les petites fenêtres en l'air, la dernière fenêtre était bouchée avec des planches au lieu d'être avec des barreaux. Alors on a pu enlever les planches, libérer cette ouverture et sauter par là. Donc moi j'ai sauté la 7e. Sur 14.
Mais vous saviez les risques inouïs que vous preniez ? Qu'est-ce qui vous a fait prendre ce risque-là ? Vous pensiez vraiment qu'on arrivait à la fin de la guerre, que vous alliez pouvoir...
Ah oui, ça, la fin de la guerre, c'était probable.
Ça se sentait, c'était...
C'était probable, ouais. Quoique on ne savait pas grand-chose des événements. On savait simplement
que les Alliés s'approchaient.
On savait que les Alliés s'approchaient, c'est tout. On ne savait pas grand-chose de la guerre. Mais... tout valait mieux que d'aller dans un camp d'extermination où on nous aurait gazé.
De toute manière,
il fallait absolument trouver une solution.
C'est après cette évasion, Odette Spingard, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va beaucoup vous aider et qui s'appelle Elie Fulman. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
En fait, la première personne que j'ai rencontrée après mon évasion et qui m'a aidée, ça a été un prisonnier de guerre, André Marquand, qui m'a emmenée dans son commando. Et le chef du commando a dit qu'il ne pouvait pas me garder longtemps parce que c'était très risqué pour les 32 soldats qui occupaient cet endroit. Et André Marquand m'a trouvé une personne qui a accepté de me cacher et c'était Madame Elie Fulman, une personne allemande qui était veuve de guerre, qui avait 4 enfants et qui n'a pas hésité à prendre tous les risques pour me cacher jusqu'à la libération. Mais lorsque je suis arrivée chez elle, elle ne savait pas combien de temps durerait jusqu'à la libération, combien de temps ça durerait. Donc elle m'a gardée jusqu'au 8 mai, entre le 14 avril et le 8 mai. Et j'avais une gratitude infinie vis-à-vis d'elle. Et j'ai eu la joie d'obtenir pour elle la médaille des justes d'Israël et de la faire venir chez moi à Paris pour la recevoir.
Merci pour votre témoignage, Odette Spingard. Votre livre « J'ai sauté du train » vient de paraître aux éditions du Manuscrit dans la collection « Témoignages de la Shoah » en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nous vous retrouvons également le 16 juin prochain au Mémorial de la Shoah pour une rencontre autour de votre livre. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.